On va aller rejoindre Éric Lantier, ça va nous faire du bien. Salutations, monsieur, comment ça va?
Ça va très bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Pareillement, d'autant plus que tu devrais être en vacances en ce moment. J'avais une note à l'agenda tantôt, Éric Lantier pas là. C'était pour des vacances, doit être correct. Content de t'avoir.
C'est sûr que j'aurais aimé ça être sur le bord de la mer, là, mais là, qu'est-ce que tu veux, confinement oblige.
Ça va être le bord du fleuve ou le bord du lac, peut-être, éventuellement. Je veux commencer avec l'éducation, dont tu es un spécialiste, une maîtrise dans le domaine, tu as été directeur d'école, tu as étudié la chose abondamment, et tu connais le principe de Peter sur le bout des doigts, la limite de compétence. Tu estimes peut-être que le ministre actuel aurait atteint ce fameux seuil? Présentement?
Ben, je pense que oui. Oh, oui, je pense que oui, définitivement. Écoute, ben, faut dire qu'il est nouveau comme ministre, hein. Il n'y a pas d'expérience politique comme telle.
C'est un prof.
Non, c'est ça. Il n'a pas, il y a quelques mois d'expérience derrière la cravate. Il arrive, c'est une crise sans précédent. Mais dans les circonstances, écoute, il y a d'autres ministres à travers le monde qui passent au travers de cette même crise-là. Je pense au Danemark.
Voilà.
Qui ont commencé, ils ont ouvert les écoles mercredi dernier. Puis il y en a certaines qui ont levé le flag, qui ont levé le drapeau en disant, écoutez, pouvez-vous nous donner 3 jours ouvrables parce qu'on n'est pas tout à fait prêts? Nous, en même journée, les autorités scolaires, oui. Pouvez-vous nous donner un mois de plus? Ben voyons donc, hein? C'est quoi l'affaire? En Allemagne, ils sont prêts pour le 17 mai.
Okay.
Donc, je veux dire, écoute, il y a quelque chose que je comprends pas, là. L'école, ici au Québec, a fermé le 13, ben, elle a fermé le 12, là, à partir du 13, les élèves n'entraient plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là?
Pas grand-chose, je le sais, j'ai eu plein d'échos, j'ai du monde près de moi dans le système, puis on leur demande rien, les profs, là, finalement, à un moment donné, vous pouvez vous faire une petite séance là, par semaine, c'est pas exactement obligatoire, mais on aimerait ça.
Ben oui.
Legault peut bien pointer les syndicats pour ce qui est de l'histoire des préposés aux bénéficiaires, comme si c'était impossible d'augmenter le salaire d'un domaine sans augmenter les autres. Bullshit. Pour ce qui est de l'éducation, le syndicat n'est pas très aidant, admettons, au minimum, mais là, on pourrait être aide comme on l'est avec l'histoire des préposés aux bénéficiaires, caler une rencontre. C'est pas dans les priorités. On est en mode fermeture, on veut pas. On se complaît là-dedans, on est bien. C'est mon sentiment, on dirait.
Oui, parce que l'idée, là, c'est de se préparer pour que lorsque la santé publique va dire « OK, c'est quand même sécuritaire s'il y a des mesures qui sont prises », on n'est pas obligé d'avoir une entrée hâtive, mais au moins d'être prêt au moment où est-ce que ça va être le temps d'entrer.
Commencer la préparation-là, il n'y a rien. Puis, ils ont dit que ça prend un mois. Alors, chaque journée qui passe, tu sais, c'est un mois plus tard. La fin de l'école, c'est toujours bien à mi-juin pareil. Donc, on va arriver dans 2 semaines. C'est inenvisageable de repartir de l'école pour 10 jours.
Non, c'est ça.
C'est fini. Il n'y aura pas de... L'année scolaire est terminée. Vois-tu une possibilité qu'on rouvre ça avant la fin? Ou qu'on fasse l'école l'été?
Non, mais là il y a une pression qui est sur le gouvernement. Il y a deux pressions. Il y en a une qui dit, ben non, faut protéger nos enfants, faut pas l'ouvrir, c'est dangereux. Puis il y en a d'autres qui disent, ben là, en tant que parent, on n'en peut plus garder nos enfants. Nos enfants sont plus capables d'être dans la maison. Sortez-les de chez nous, ça presse. Puis là, l'argument qu'on me lance, c'est, ouais, mais là, c'est, on a la moitié des élèves dans la classe parce qu'il faut qu'ils soient à 2 mètres de distance. Ça veut dire qu'un élève va être là une journée sur deux. Mais moi, je crois pas ça. Moi, je dis, les élèves en difficulté, les élèves qui ont des parents qui sont retournés au travail à l'extérieur, eux, t'es fait rentrer. Les élèves doués, les élèves qui réussissent bien, eux, t'es laissé à la maison avec leurs parents. Tu leur donnes des projets particuliers avec des tuteurs qui, par exemple, sont des étudiants à l'université en éducation. Tu leur mets sur des projets dynamisants qu'ils n'ont jamais eu le temps de faire à l'école parce qu'il y avait trop de contraintes. Là, à ce moment-là, t'as la moitié des élèves qui sont à l'école, c'est ceux qui ont besoin d'être là. Les autres, tu les mets sur des projets.
Okay.
Ça serait une façon dynamique de faire avancer les choses.
Ouais, il y a aussi le fait que Il y aura besoin qu'un jour, il y ait une contamination pour atteindre l'immunité collective. Puis si on est ces briques, il y a des spécialistes, j'en ai pris un épidémiologiste de l'Université de Stanford. Quand on allonge la courbe, on allonge le temps où on est pogné avec une pandémie. Alors, si on donne un petit coup, pas obligé d'être... On peut y aller au gradateur, là, comme tous les boss de santé publique à travers le monde utilisent le terme. Là. On peut y aller, mais on peut tourner vite le gradateur aussi. Fait que les enfants, c'est les gens qui ont le moins de chances d'avoir de graves problèmes avec ça. Pourquoi on commencerait pas par ça? Puis la perte semble d'informations puis d'éducation dans la tête de ces dizaines de milliers de jeunes-là, c'est même pas une considération, on dirait, dans les têtes des dirigeants en ce moment. Je vois un avenir assez sombre côté éducation pour un bon moment au Québec.
Ouais, malheureusement, ça crée de la démotivation autant de la part des parents que des enfants. Et pour le personnel école aussi, parce que plus qu'on attend, là, moins qu'ils vont être motivés à revenir.
Tu connais le phénomène de plus tu es embourbé dans une paresse ou tu sais une immobilité, plus c'est difficile de redevenir mobile également. Il y a des gens que ça affecte plus que d'autres, puis des enfants comme des grands. Et il va y avoir beaucoup de gens qu'on aura énormément de difficultés à rattraper à cause de ça. Puis ça continue à se prolonger. On va arrêter de prolonger le supplice, nous autres, là-dessus. On va aller avec d'autres considérations. Ben, ça touche à la même chose. C'est la troisième phase. Tu analyses ça en phase un peu, les procédés de notre gouvernement ici au Québec?
Oui. Ben, il y a quatre phases. La phase héroïque, quand tout le monde retrousse ses manches, on l'a vu, hein, il y a eu des caricatures Capitaine America avec la face du premier ministre, etc. La lune de miel, quand on sent là, que le gouvernement a pris les choses en main, ça fonctionne quand même assez bien.
On fait des tartelettes portugaises.
Exactement. Après ça, la troisième, c'est la phase de désillusion. Là, les plaintes commencent à sortir. La semaine dernière, on a commencé à faire parler le chef de l'opposition officielle, puis le chef de la deuxième opposition officielle, là, il commence à accepter des entrevues, ce qu'on ne voyait pas avant.
Ce qui est quand même incroyable dans une démocratie, puis non seulement une démocratie en crise. S'il y a un moment où c'est important qu'on ait des débats, c'est une crise. Non, pas ici. Au fédéral, ça a été mieux. Et bon, est-ce que c'est la partie déflexion, c'est-à-dire détournement d'attention vient avec la troisième phase. Tu sais, t'as vu Donaldo, il a pointé l'OMS avec raison, mais il a coupé les fonds. Et ça lui assurait un oubli de certaines lacunes qu'il avait pu avoir avant. Il y a cette tactique-là depuis longtemps, mais dans la pandémie actuelle, on le sent aussi être là par phase. Legault, lui, c'est les médecins qui a pointé pour détourner. Il y a eu d'autres équivalents partout ailleurs. Est-ce que ça fait partie de la troisième phase, ça, déflect?
Ouais, ben c'est sûr détourner. Que justement parce que les plaintes ressortent, parce que les failles, on s'en rend compte qu'il y a des failles au début. On est tous solidaires parce qu'on veut sortir ensemble de la crise. Mais là, à un moment donné, on se rend compte, hey, ça marche pas aussi bien qu'on le pensait, puis il est pas aussi hot que ça, notre leader. Là, les plaintes commencent à sortir. Qu'est-ce que les leaders font à ce moment-là, justement? Ils utilisent ton principe d'efflexion parce qu'ils veulent continuer avec un élan puis garder quand même la population dans une certaine espérance que ça va bien aller.
Pour le contrôle. Bon.
Exactement.
Ça, c'est la troisième phase. Quatrième, avais-tu mentionné? C'est quoi le...
Donc, la quatrième, c'est la phase de reconstruction. Une fois qu'on a passé au travers, on rebâtit comment puis dans quelle perspective? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? C'est certain que la question des préposés aux bénéficiaires là, vont faire partie de la phase de reconstruction. Ça, c'est écrit dans le ciel, là, c'est évident.
À part ça, ta vision des prochaines étapes pour la reconstruction, je vois un tableau immense, là. Je ne sais pas par où commencer. As-tu une idée?
Ben, c'est sûr qu'il va falloir, il va certainement avoir une grogne concernant les libertés individuelles. Ça va ressortir ça par la suite.
Au Québec?
Ben,
ouais.
Je pense qu'il va... Ben, peut-être pas aussi fort ailleurs dans le Canada pour aux États-Unis. Au Québec, ça va être moins fort, ça, t'as raison. Mais en Amérique du Nord, ça va être un débat qui va être soulevé. Mais t'as tout à fait raison, au Québec, ça va être moins intense. Mais là, je pense que où est-ce que ça va être important, puis j'ai l'impression qu'on le prendra pas au sérieux, c'est toute la question de la transmission électronique du savoir à partir des salles de classe.
Ouais. Oh, wow.
Ça, là, mais... ça, c'est important. Puis je suis pas sûr qu'on va y attacher une importance. Puis ça, ça me fait peur.
Parce qu'il y a de la complaisance dans l'immobilisme. Puis là, ils veulent pas nécessairement... mettons, je viens d'avoir un cas qui me pop dans la tête. Hey, je suis malade aujourd'hui, mais je veux pas aller à l'école. Ah, ben OK, reste à la maison, on va te connecter, tu vas faire ta journée pareil.
Voilà.
Ou un prof malade. Hey, peut-être qu'il pourrait travailler pareil. Ça, à Palaille, hein? Donc, mais il faut, puis on est en retard, on l'a prouvé, là. Pas à peu près.
Mais imagine une journée de tempête de neige. Hein? Ça serait super. Ouhouhou. Tu pourrais continuer l'école.
Tiens.
Je veux dire, ça serait extraordinaire. Des inondations. Tu pourrais continuer l'école. Je veux dire.
Des champignons dans les murs qui lâchent leur sport. On ferme pour exactement. Le réno. Vous allez avoir vos cours pareils, les paupiètes.
Eh oui.
Oui.
C'est ça. Mais j'espère que ça va faire partie de la reconstruction puis de ce qu'on aura appris au travers de cette crise-là. Je le souhaite de tout cœur parce que c'est au bout de la ligne. C'est les enfants, c'est les élèves qui vont être gagnants de tout ça.
Excellent point. J'ajouterais quelque chose qui me surlupine depuis déjà un bout de temps. Pour la santé, qu'on ait des stashs de matériel médical qui ont de l'allure, avec un inventaire, pour pas que ça soit du stock passé date. Puis, parce que là, à l'automne, si c'est si terrible qu'ils nous disent là, la recrudescence peut être pire que la première phase. Fait qu'il faut être prêt pour pas avoir un reconfinement à faire puis que les hôpitaux soient pas débordés. Moi, j'ai toujours mentionné, depuis longtemps, quelques semaines, le patrimoine bâti religieux qu'on n'arrête pas de démolir ou de virer en condo, il en reste, là. Ça serait une occasion de se servir de certains édifices pour préparer au lieu des hôpitaux de campagne dans des tentes, là, ben on a une soupape pour notre système de santé en cas d'épidémie virale. Oui. J'espère que ça va aller en ce sens-là. J'ai pas l'impression non plus, nécessairement, qu'on aura beaucoup d'activités de même. Les tests sérologiques aussi, là, ça, la grande capacité de test. Hein.
Oui. Puis aussi, pourquoi... moi, j'aimerais ça qu'on puisse se pencher sur l'éventualité d'ériger des tentes dans les parcs, quitte à ce qu'il y ait du chauffage, tout ça, mais dire maintenant, OK, t'es contaminé, va-t'en dans la tente pendant 14 jours. Le reste de la population continue à faire ses activités. OK, toi, t'es contaminé, tu sors. À chaque fois qu'il y a un contaminé, il sort, puis la communauté continue à exercer ses activités. J'espère qu'ils vont l'évaluer pour que, si jamais il y a une deuxième vague qui est aussi forte ou plus forte, qu'on ait cette option-là de disponible, puis qu'elle soit prête, qu'on dise pas, ben là, ça nous prend un mois pour l'évaluer. J'espère que non.
Je reviens juste à dire, les gens affectés, puis les personnes âgées, auront cette obligation-là morale, pas obligatoire avec la loi nécessairement, mais de se retirer, puis les personnes qui veulent faire attention. J'ai une citation d'un philosophe qui m'a été soumis ici, qui se nomme André Comte Sponville, un bonhomme d'une soixante-dizaine d'années, qui clame « Laissez-nous mourir comme nous le souhaitons. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'humanité se donne pour mission de sauver tout le monde. Est-ce véritablement une bonne nouvelle? » Poser la question, c'est pas mal y répondre.
Oui, mais quand ça touche l'individu, c'est une chose, mais quand ça peut affecter d'autres qui n'ont pas le goût de mourir, c'est là que ça devient un bon débat.
C'est le cas avec tellement d'affaires pour lesquelles on n'a jamais pris de mesure, ne serait-ce que à mille lieues de ce qu'on vit là. Le cancer de 75 000 Canadiens par année, arrêtons tout. Les routes, ben voyons, c'est vrai, c'est des centaines, des milliers de morts, ouais, etc. Bien. Les maladies respiratoires comme la grippe, là, c'est des dizaines de milliers de morts par année. Pas au Canada. Au Canada, c'est quoi? 8 000. Il y a des pics un peu plus haut. On n'a jamais rien arrêté pour ça, jamais.
Tu sais? Non, mais il faut avoir la capacité de donner les soins aussi.
Ça, c'est sûr. Pas de doute. Mais j'ai tellement de souvenirs de pics de grippe où les statistiques d'occupation des hôpitaux à 175 % nous pétaient d'en face. Pourquoi on ne fermait rien à ce moment-là?
Ben, peut-être parce qu'à ce moment-là, le personnel était moins contaminé, il y avait moins de chances pour que le personnel puisse être contaminé. Là, on a un ennemi qu'on connaît moins, tandis que quand on parle de la grippe, on le connaît un peu plus.
Ça, c'est vrai. Ça, là, c'est absolument. Éric Lantier, très enrichissant. Comme d'habitude, on va te laisser vaquer à tes occupations. On se retrouve prochainement. Merci bien gros. On va aller faire un tour sur ton site internet aussi.
Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.
Éric Lantier.net, ça vous tente de lire des papiers de notre collaborateur qui est là aux deux semaines. On est à une dizaine de minutes de notre prochain chroniqueur. On peut se laisser là, puis tomber dans nos affaires un peu. J'ai comme envie d'y aller avec de quoi de drôle.